Rainer Maria Rilke, Les cahiers de Malte Lauritzbridge. Traduction de Maurice Betz. 11 septembre, rue Toulier. C'est donc ici que les gens viennent pour vivre? Je serais plutôt tenté de croire que l'on meurt ici. Je suis sorti, j'ai vu des hôpitaux. J'ai vu un homme qui chancelait et s'affaissa. Les gens s'assemblèrent autour de lui et m'épargnèrent ainsi la vue du reste. J'ai vu une femme enceinte. Elle se traînait lourdement le long d'un mur haut et chaud et étendait de temps à autre les mains en tâtonnant, comme pour se convaincre qu'il était encore là. Oui, il y était encore. Et derrière lui, je cherchais sur mon plan, maison d'accouchement. Bien, on la délivrera. Rien ne s'y oppose. Plus loin, rue Saint-Jacques, un grand bâtiment avec une coupole. Le plan indique Val-de-Grâce, hôpital militaire. Je n'avais d'ailleurs pas besoin de ce renseignement, mais peu importe. La rue commença à dégager de toutes parts des odeurs. Autant que je pouvais distinguer, cela sentait l'iodoforme, la graisse de pommes frites, la peur. Toutes les villes sentent en été. Puis j'ai vu une maison singulièrement aveugle. Je ne la trouvais pas sur mon plan, mais je vis au-dessus de la porte une inscription encore assez lisible. Asile de nuit. À côté de l'entrée étaient inscrits les prix. Je les ai lus. Ce n'était pas cher. Et puis, j'ai vu un enfant dans une voiturette arrêtée. Il était gros, verdâtre, et avait visiblement une éruption sur le front. Elle guérissait apparemment et ne le faisait pas souffrir. L'enfant dormait, sa bouche était ouverte et respirait l'iodoforme, l'odeur des pommes frites, de la peur. C'était ainsi, voilà tout. L'important était que l'on vécût. Oui, c'était là l'important. Dire que je ne peux pas m'empêcher de dormir la fenêtre ouverte. Les tramways roulent en sonnant à travers ma chambre. Des automobilistes passent sur moi. Une porte claque. Quelque part une vitre tombe en cliquetant. J'entends le rire des grands éclats, le gloussement léger des paillettes. Puis soudain, un bruit sourd, étouffé, de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. Quelqu'un monte l'escalier. Approche, approche sans arrêt. Est là, est longtemps là, passe. Et de nouveau la rue. Une femme crie « Ah, tais-toi, je ne veux plus !» Le tramway électrique accourt, tout agité, passe par-dessus, par-delà tout. Quelqu'un appelle, des gens courent, se rattrapent. Un chien aboie. Quel soulagement, un chien. Vers le matin, il y a même un coq qui chante, et c'est un délice infini. Puis, tout à coup, je m'endors. Cela, ce sont les bruits. Mais il y a quelque chose ici qui est plus terrible, le silence. Je crois qu'au cours de grands incendies, il doit arriver ainsi, parfois, un instant de tension extrême. Les jets d'eau retombent, les pompiers ne montent plus à l'échelle, personne ne bouge. Sans bruit, une corniche noire s'avance, là-haut, et un grand mur derrière lequel le feu jaillit s'incline sans bruit. Tout le monde est immobile et attend, les épaules levées, le visage contracté sur les yeux, le terrible coup. Tel est ici le silence. J'apprends à voir. Je ne sais pas pourquoi tout pénètre en moi plus profondément et ne demeure pas où, jusqu'ici, cela prenait toujours fin. J'ai un intérieur que j'ignorais. Tout y va désormais. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Aujourd'hui, en écrivant une lettre, j'ai été frappée du fait que je ne suis ici que depuis 3 semaines. 3 semaines ailleurs. À la campagne, par exemple, cela semblait un jour. Ici, ce sont des années. Du reste, je ne veux plus écrire de lettres. À quoi bon dire à quelqu'un que je change? Si je change, je ne suis plus celui que j'étais. Et si je suis autre que je n'étais, il est évident que je n'ai plus de relation. Et je ne peux pourtant pas écrire à des étrangers, à des gens qui ne me connaissent pas. L'ai-je déjà dit? J'apprends à voir. Oui, je commence. Cela va encore mal, mais je veux employer mon temps. Je songe, par exemple, que jamais encore je n'avais pris conscience du nombre de visages qu'il y a. Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs. Voici des gens qui portent un visage pendant des années. Ils s'usent naturellement, se salissent, éclatent, se rident, s'élargissent comme des gants qu'on a portés en voyage. Ce sont des gens simples, économes. Ils n'en changent pas, ils ne le font même pas nettoyer. Il leur suffit, disent-ils, et qui leur prouvera le contraire? Sans doute, puisqu'ils ont plusieurs visages, peut-on se demander ce qu'ils font des autres? Ils les conservent. Leurs enfants les porteront. Il arrive aussi que leurs chiens les mettent. Pourquoi pas? Un visage est un visage. D'autres gens changent de visage avec une rapidité inquiétante. Ils essayent l'un après l'autre et les usent. Il leur semble qu'ils doivent en avoir pour toujours, mais ils ont à peine atteint la quarantaine que voici déjà le dernier. Cette découverte comporte, bien entendu, son tragique. Ils ne sont pas habitués à ménager des visages. Le dernier est usé après 8 jours. Troué par endroits, mince comme du papier, et puis, peu à peu, apparaît alors la doublure, le non-visage, et ils sortent avec lui. Mais la femme, elle était tout entière tombée en elle-même, en avant, dans ses mains. C'était à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs. Dès que je la vis, je me mis à marcher doucement. Quand de pauvres gens réfléchissent, on ne doit pas les déranger. Peut-être finiront-ils encore par trouver ce qu'ils cherchent. La rue était vide. Son vide s'ennuyait, retirait mon pas de sous mes pieds et claquait avec lui, de l'autre côté de la rue, comme avec un sabot. La femme s'effraya, s'arracha d'elle-même. Trop vite, trop violemment. De sorte que son visage resta dans ses deux mains. Je pouvais y voir sa forme creuse. Cela me coûta un effort inouï de rester à ses mains, de ne pas regarder ce qui s'en était dépouillé. Je frémissais de voir ainsi un visage du dedans, mais j'avais encore bien plus peur de la tête nue, écorchée, sans visage. J'ai peur. Il faut faire quelque chose contre la peur quand elle vous tient. Ce serait trop terrible de tomber malade ici, et si quelqu'un s'avisait de me faire porter à l'Hôtel-Dieu, j'y mourrais certainement. C'est un hôtel bien agréable, très fréquenté. On peut à peine regarder la façade de Notre-Dame de Paris sans courir le danger de se faire écraser par l'une des nombreuses voitures qui traversent le parvis le plus vite possible pour pénétrer là-dedans. Petits omnibus qui sonnent sans discontinuer. Le duc de Sagan lui-même devrait faire arrêter son équipage pour peu que l'un de ses petits mourants se fût mis en tête d'entrer tout droit dans l'hôtel de Dieu. Les mourants sont têtus, et tout Paris ralentit quand Madame Legrand, brocanteuse de la rue des Martyrs, s'en vient en voiture vers certaines places de la cité. Il est à remarquer que ces petites voitures endiablées ont des vitres opaques terriblement intrigantes, derrière lesquelles on peut se représenter les plus belles agonies. La fantaisie d'une concierge y suffit. Que si l'on a plus d'imagination et qu'on la laisse se développer dans d'autres directions, le champ des suppositions devient véritablement illimité. mais j'ai vu arriver aussi des fiacres ouverts, des voitures de place à l'heure, la capote levée, qui roulaient au tarif habituel, à 2 francs l'heure d'agonie. Cet excellent hôtel est très ancien. Déjà, à l'époque du roi Clovis, on y mourait dans quelques lits. À présent, on y meurt dans 559 lits, en série bien entendu. Il est évident qu'en raison d'une production aussi intense, chaque mort individuelle n'est pas aussi bien exécutée. Mais d'ailleurs, cela importe peu. C'est le nombre qui compte, qui attache encore du prix à une mort bien exécutée. Personne. Même les riches, qui pourraient cependant s'offrir ce luxe, ont cessé de s'en soucier. Le désir d'avoir sa mort à soi devient de plus en plus rare. Quelque temps encore, et il deviendra aussi rare qu'une vie personnelle. C'est que, mon Dieu, tout est là. On arrive, on trouve une existence toute prête, on n'a plus qu'à la revêtir. On veut repartir, ou bien l'on est forcé de s'en aller, surtout pas d'effort. Voilà votre mort, monsieur. On meurt tant bien que mal. On meurt de la mort qui fait partie de la maladie dont on souffre. Car depuis qu'on connaît toutes les maladies, on sait parfaitement que les différentes issues mortelles dépendent des maladies et non des hommes. Et le malade n'a pour ainsi dire plus rien à faire. Dans les sanatoriums, où l'on meurt si volontiers et avec tant de reconnaissance pour les médecins et les infirmières, on meurt habituellement d'une des morts qui sont attachées à la maison. C'est très bien considéré. Quand on meurt chez soi, il est naturel qu'on choisisse cette mort polie de la bonne société, par laquelle on inaugure déjà, en quelque sorte, un enterrement de première classe et toute la suite de ses admirables traditions. Les pauvres s'arrêtent alors devant ces maisons et se rassasient de ces spectacles. Leur mort à eux est bien entendu banale, sans le moindre embarras. Ils sont heureux d'en trouver une qui leur aille à peu près. Elle peut être trop large, on grandit toujours encore un peu. Ce n'est que lorsqu'elle ne se ferme pas sur la poitrine ou qu'elle vous étrangle qu'on a de la peine. Quand je repense à chez nous, où il n'y a plus personne à présent, il me semble toujours qu'il a dû en être autrement jadis. Jadis, l'on savait, ou peut-être s'en doutait-on seulement, que l'on contenait sa mort comme le fruit son noyau. Les enfants en avaient une petite, les adultes une grande. Les femmes la portaient dans leur sein, les hommes dans leur poitrine. On l'avait bien, sa mort, et cette conscience vous donnait une dignité singulière, une silencieuse fierté. Mon grand-père encore, le vieux chambellan Bridge, portait, cela se voyait, sa mort en lui. Et quelle mort, longue de 2 mois et si éclatante qu'on l'entendait jusque dans la métairie. La vieille et longue maison de maître était trop petite pour contenir cette mort. Il semblait qu'on dût y ajouter des ailes, car le corps du chambellan grandissait de plus en plus. Il voulait être porté sans cesse d'une pièce à l'autre et éclatait en des colères terribles lorsqu'il n'y avait plus de salle où le porter et que le jour ne touchait pas encore à sa fin. Alors il fallait, avec toute la suite de domestiques, de femmes de chambre et de chiens qu'il avait toujours autour de lui, le porter en haut de l'escalier. Et en laissant le pas à l'intendant, on envahissait la chambre mortuaire de sa très sainte mère, conservée exactement dans l'état en lequel la morte l'avait, depuis 23 ans, quittée, et où personne n'avait jamais pénétré. Mais toute la meute à présent y faisait irruption. On tirait les rideaux, et la lumière robuste d'une après-midi d'été examinait tous ces objets timides et effarouchés. Et tournait maladroitement dans les glaces brusquement rouvertes. Et les gens n'en prenaient pas moins à leur aise. Il y avait des soubrettes qui, à force de curiosité, ne savaient plus où s'attardaient leurs mains. De jeunes domestiques qui ouvraient de grands yeux sur tout, et d'autres, plus vieux, qui allaient et venaient, et essayaient de se rappeler ce qu'on leur avait raconté de cette chambre close, où ils avaient enfin aujourd'hui le bonheur de pénétrer. Mais c'est aux chiens surtout que le séjour dans une chambre où tous les objets portaient une odeur semblait singulièrement attachant. Les grands et minces lévriers russes circulaient d'un air très absorbé derrière les fauteuils, traversaient la pièce d'un pas de danse allongé avec une légère ondulation, se dressaient comme des chiens héraldiques et leurs pattes fines posées sur l'accoudoir d'une blancheur dorée, le front tiré et le museau attentif, regardaient à gauche et à droite dans la cour. De petits bassets couleur de gants jaunes, l'air indifférent comme si tout était normal, étaient assis dans le large fauteuil de soie auprès de la fenêtre, et un chien d'arrêt rubicant, à l'air grondeur, en se frottant le dos à l'arête d'un guéridon aux pieds dorés, faisait trembler des tasses de sèvres sur la table peinte. Oui, ce fut une époque terrible pour ces objets distraits et somnolents. Il arrivait que des pétales de roses, qui s'étaient échappés d'un vol incertain, avec une hâte maladroite, fussent piétinées. On empoignait de petits, de faibles objets, qu'on replaçait vite parce qu'ils se brisaient aussitôt. On en cachait d'autres, abîmés, sous les rideaux, ou encore derrière le treillis doré du pare-étincelle. Et de temps à autre, quelque chose tombait d'une chute étouffée par le tapis, tombait avec un bruit clair sur le parquet dur, éclatait, se brisait ici et là, ou se rompait presque sans bruit, car ces objets, gâtés comme ils l'étaient, ne supportaient aucune chute. Et si quelqu'un s'était avisé de demander quelle était la cause de tout cela, et qui avait appelé sur cette chambre, longtemps surveillée avec inquiétude, tous les froids de la destruction, il n'y aurait eu à cette question qu'une réponse, la mort. La mort du chambellan Christophe Detlev Bridge à Ulsgaard, car il était étendu, débordant largement de son uniforme bleu foncé, sur le plancher, au milieu de la chambre, et ne bougeait plus. Dans son grand visage étranger que personne ne reconnaissait, les yeux s'étaient fermés. Il ne voyait plus ce qui arrivait. On avait d'abord essayé de l'étendre sur le lit, mais il s'en était défendu, car il détestait les lits depuis ses premières nuits où son mal avait grandi. Le lit, d'ailleurs, s'était montré trop court, et il n'était pas resté d'autre ressource que de le coucher ainsi sur le tapis, car il n'avait plus voulu redescendre. Et voilà qu'il était étendu, et qu'on pouvait croire qu'il était mort. Comme il commençait à faire nuit, les chiens s'étaient l'un après l'autre retirés par la porte entrebâillée. Seul, le rubicon à la tête maussade était assis auprès de son maître, et l'une de ses larges pattes de devant, au poil touffu, était posée sur la grande main grise de Christophe Detlev. Les domestiques, pour la plupart, étaient dehors, dans le couloir blanc qui était plus clair que la chambre. Mais ceux qui étaient restés à l'intérieur regardaient parfois à la dérobée vers ce grand tas sombre au milieu de la chambre et désiraient qu'il ne fût plus qu'un grand vêtement sur une chose corrompue. Mais il restait autre chose. Il y restait une voix, cette voix que 7 semaines auparavant, personne ne connaissait encore. Car ce n'était pas la voix du chambellan, ce n'était pas à Christophe Detlev qu'appartenait cette voix, mais à la mort de Christophe Detlev. La mort de Christophe Detlev vivait à présent à Ulsgaard depuis déjà de très longs jours, et parlait à tous et demandait demandait à être porté, demandait la chambre bleue, demandait le petit salon, demandait la grande salle, demandait les chiens, demandait qu'on rit, qu'on parlât, qu'on jouât, qu'on se tût, et tout à la fois. Demandait à voir des amis, des femmes et des morts, et demandait à mourir elle-même, demandait, demandait et criait. Car lorsque la nuit était venue, et que fatigués ceux des domestiques qui ne devaient pas veiller essayaient de s'endormir, alors s'élevait le cri de la mort de Christophe Desclèves. Il criait et gémissait, il hurlait si longtemps et si continuellement que les chiens qui d'abord avaient hurlé avec lui finissaient par se taire et n'osaient plus se coucher, et debout sur leurs hautes et fines pattes tremblantes, avaient peur. Et lorsqu'au village, ils entendaient par cette nuit d'été danoise, par cette pure et immense nuit d'argent, que cette mort hurlait, ils se levaient comme par un orage, s'habillaient, et sans mot dire, restaient assis autour de la lampe, jusqu'au bout. Et l'on reléguait dans les chambres les plus reculées et dans les alcôves les plus profondes les femmes qui étaient près d'accoucher. Mais elles l'entendaient quand même, comme si elle eût crié dans leur propre corps. Et elles suppliaient qu'on les laissât aussi se lever, et elles arrivaient, volumineuses et blanches, et s'asseyaient parmi les autres, avec leurs visages aux traits effacés. Et les vaches, qui vêlaient en ce temps, étaient impuissantes et misérables, et l'on dut arracher à l'une le fruit mort avec toutes les entrailles lorsqu'il ne voulut pas venir. Et tous accomplissaient mal leur besogne et oubliaient de ramener le foin parce qu'ils passaient le jour à avoir peur de la nuit et que, à force de veiller et de se lever en sursaut, ils étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient plus se souvenir de rien. Et lorsque le dimanche, ils allaient à l'église, blanche et calme, ils demandaient dans leur prière qu'il n'y eût plus de seigneur à Ulsgaard, car celui-ci était un seigneur terrible. Et ce que tous pensaient et priaient, le pasteur le disait à pleine voix du haut de la chaire, car lui aussi n'avait plus de nuit et ne comprenait plus Dieu. Et la cloche le répétait, car elle avait trouvé une terrible rivale qui résonnait toute la nuit, et contre laquelle, quand elle sonnait même de tout son métal, elle ne pouvait rien. Oui, tous le disaient, et parmi les jeunes gens, il y en avait un qui avait rêvé qu'il était allé au château, et qu'il avait tué le maître d'un coup de sa fourche. Et l'on était si révolté, si remué, que tous écoutèrent lorsqu'il raconta son rêve, et sans même s'en douter, tous le regardèrent pour voir s'il était vraiment capable d'un tel exploit. C'est ainsi que l'on sentait et que l'on parlait dans toute la région, où quelques semaines plus tôt, on avait encore aimé et plaint le chambellan. Mais bien qu'on parlât ainsi, rien ne changeait. La mort de Christophe Desclèves, qui habitait Ulsgaard, ne se laissait pas presser. Elle était venue pour 10 semaines, et elle resta les 10 semaines bien comptées. Et pendant ce temps, elle était la maîtresse, plus que Christophe Desclèves n'avait jamais été le maître. Elle était pareille à une reine qu'on appelle la Terrible, plus tard et toujours. Ce n'était pas la mort du premier hydropique venu. C'était une mort terrible et impériale que le chambellan avait portée en lui et nourrie de lui toute sa vie durant. Tout l'excès de superbe, de volonté et d'autorité que même pendant ses jours les plus calmes il n'avait pas pu user était passé dans sa mort, dans cette mort qui à présent s'était logée à Ulsgaard et galvaudait. Comment le chambellan Bridge eût-il regardé quiconque lui eût demandé de mourir d'une mort autre que de celle-là? Il mourut de sa dure mort. Et lorsque je pense aux autres que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler, c'est toujours la même chose. Tous ont eu leur mort à eux. Ces hommes qui la portaient dans leur armure, à l'intérieur d'eux, comme un prisonnier. Ces femmes qui devenaient très vieilles et petites et avaient un trépas discret et seigneurial sur un immense lit, comme sur une scène, devant toute la famille, la domesticité et les chiens rassemblés. Oui, les enfants même, jusqu'au tout petit, n'avaient pas une quelconque mort d'enfant. Ils se rassemblaient et mouraient selon ce qu'ils étaient et selon ce qu'ils seraient devenus. Et de quelle mélancolique douceur était la beauté des femmes lorsqu'elles étaient enceintes et debout, et que leur grand ventre sur lequel, malgré elles, reposaient leurs longues mains, contenait deux fruits, un enfant et une mort. Leur sourire épais, presque nourricier dans leur visage si vidé, ne provenait-il pas de ce qu'elles croyaient quelquefois sentir croître en elles l'un et l'autre ?